de fusion. Alors que vous pouvez associer, alors avant qu'on voit les autres, la fusion à la place de la détermination, de la délimitation. De ce point de vue-là, je reviens à une vieille problématique des arts plastiques, c'est l'opposition des cinq couleurs. Rappelez-vous, ça c'est, il y a plusieurs polarités en arts plastiques, il y a le mur ou la fenêtre, ce n'est jamais une surface ou une trouée. Et il y a aussi une opposition, un dialogue permanent chez les artistes, c'est le dessin de la couleur. J'en ai un peu parlé la dernière fois, le dessin désigne et précis, et la couleur, au contraire, elle est ouverte, elle est plus fluide, elle va recouvrir, elle cache, et elle est beaucoup plus du côté de l'irrationnel ou de la séduction. Hein, vous avez cette idée-là. Et d'ailleurs, on voit chez Turner, il y a une sorte de paradoxe, c'est un grand dessinateur, mais comment mettre la place au dessin pour suggérer l'infini, justement, hein, et le mouvement romantique, les effusions, etc. Donc la confusion, c'est quelque chose qui, aussi, chez Turner et chez les romantiques, a une dimension positive, puisque quand les choses sont séparées, elles n'échangent pas, elles ne dialoguent pas. Donc si elles sont délimitées, c'est la mort, en fait. Hein, tout ce qui est défini, déterminé, est mort. Pour que ça fonctionne, il faut que ça échange. Et pour que ça fonctionne au maximum, ben c'est un principe presque, je ne sais pas si c'est anthropique, il faut qu'il y ait une fusion maximale. Donc les éléments fusionnent tous ensemble. C'est pour ça que la métaphore étonnante de la machine à vapeur qui devient presque un objet romantique, puisque les éléments fusionnent pour se transformer en énergie presque vitale. Avec l'idée que finalement un corps humain, c'est aussi presque une sorte de machine à vapeur, parce qu'on transforme des matériaux par la chaleur, hein, en air et en eau, etc. Tous les éléments dans le corps humain sont comme une sorte de mécanique. Alors, chez Turner, c'est assez clair, hein, cette idée de fusionnement. Alors, la fusion, au début, chez Turner, elle pouvait être à dominante aquatique, à dominante de feu, de lumière, à dominante aérienne, c'est-à-dire de l'air, et parfois la dominante terrestre, c'est un peu plus difficile. Quand la Terre pouvait englober le reste, c'est un peu plus difficile, mais il a quand même travaillé sur les volcans, donc il travaille aussi sur les quatre éléments. Alors, il y a des contemporains de Vermeer autour de la principe de l'art. Comment ?
Vermeer ?
De Turner. Des contemporains de Turner sur le romantisme du paysage. Alors, le plus célèbre, c'est un Allemand, Caspar David Friedrich. Vous connaissez son nom, donc Caspar, c'est ASPR, David Friedrich. On avait, et là, qui est contemporain hein, de toutes ces. Il est un peu plus âgé, hein, en fait. Caspar David Friedrich. Et ici, c'est un moine devant la mer. Hein. Alors, je vais vous le montrer en. Maintenant, j'ai un peu l'ordinateur, donc j'ai un diaporama un peu de meilleure qualité. Un moine devant la mer. Alors, il y a cette idée d'infini, cette idée d'immensité. On va voir chez Caspar David Friedrich. La solitude, parce que chez Caspar David Friedrich, il y a vraiment l'idée qu'une personne fait face à l'infini de la nature, hein, et donc dans une sorte de état d'âme, état du paysage. C'est-à-dire que vous avez la seule confrontation possible pour un individu, pour se retrouver lui-même, c'est d'aller jusqu'aux limites de la nature. Donc les paysages qui sont les plus radicaux, les plus ultimes, parce que c'est là où on voit, c'est comme une sorte d'expérience presque mystique chez Caspar David Friedrich. La solitude, on voit jusqu'où, voilà, l'horizon, la mer, on n'est pas du tout dans le spectaculaire, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de coucher de soleil, il n'y a pas d'arbre au premier plan, il y a une sorte de dénuement absolu. Effectivement, comme une sorte d'enquête sur sa propre émotion et sensibilité. Alors, je passe là-dessus. Alors, c'est pas très grand. Pas très grand. Les peintures de Caspar David Friedrich sont de taille moyenne. Alors, j'en ai peu vu, parce qu'elles sont presque toutes en Allemagne. Il n'y en a qu'une à Paris, qui est discrète dans un coin, c'est l'arbre au corbeau, mais qui fait un format raisin à peu près, pas très grand. Hein. Celle-ci est également intéressante, parce que, à la façon, on va dire, je ne veux pas systématiser, mais à la façon allemande, il y a toute une dimension philosophique et très claire. Il y a une clarté dans le propos, qui est que Caspar David Friedrich, quelque part un héritier du classicisme et en même temps romantique. Alors celle-ci est connue pour son titre, c'est « Les falaises de l'île de Rügen ». Rügen, R-U-G-E-N. Les falaises, alors les couleurs sont un peu plus délicates en vrai, hein, sur mon ordinateur, mais les falaises de l'île de Rügen, alors je suis allé voir des photos de l'île de Rügen, c'est moins beau que la peinture de Caspar David Friedrich.
Ah, dommage.
Alors, il n'y avait pas la photo, il n'y avait pas la belle lumière, alors effectivement. Mais, ici, vous avez une peinture. Ah, c'est dommage, je pense que c'est pas top. Bref. Cette idée de contemplation. Alors là, on n'est pas dans la philosophie de l'action romantique à la française, on n'est pas dans la fusion. On peut dire que les éléments sont dissociés. Il y a l'air, il y a la terre, il y a la lumière, il y a l'infini. Mais vous avez très clairement cette idée de frontière, de limite, et des gens qui, comme au bord de la mer ici, arrivent au bout d'un monde hein, où on ne peut plus agir. Seule chose qui reste à faire, c'est contempler. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est intéressant, c'est trois personnages différents. Une femme en rouge qui s'accroche à des petits buissons et avec ici qui s'adosse plus ou moins à une branche, qui est en rouge et qui tend la main, qui est aspirée par le gouffre. Alors, les falaises de l'île d'Oregon, je crois, faut les risquer, parce que je crois que ça me paraît tellement hallucinant, mais c'est plus de 100 mètres, ça, c'est très très haut. Hein. C'est donc des apics extraordinaires, hein. Donc presque en apic tout droit. Donc c'est vertigineux, avec des dents de craie comme ça, un petit peu comme un étretat, etc., mais encore plus déchiquetés, qui ont ce côté un petit peu absolu, radical, de tentation. Alors, la femme en rouge, on peut l'assimiler au complexe d'Empédocle. Vous en avez parlé peut-être de ce complexe de philosophes grecs, pour simplifier, Empédocle, un philosophe grec, poète, etc., qui définissait la question de connaître les choses. Pour connaître les choses, il faut les vivre. Donc, si on veut connaître un volcan, il faut vivre le volcan. Il le volcan, donc ce que fait Empédocle, et à la fin de sa vie, il se jette dans le volcan. Je crois que c'est l'Etna. Donc il se jette dans le volcan. Comme ça, il l'aura vraiment connu. Donc, c'est cette idée radicale, absolue, d'une sorte de tentation absolue, hein, se dire, au moins, j'ai reproduit quelque chose totalement, à fond, et une sorte de fascination presque suicidaire, mais qui d'un coup correspond à une aspiration de l'infini, hein, une force intime, hein, fascinée par une sorte de révélation, donc cette espèce de tentation. Vous avez ici au milieu un homme plus âgé, alors ça se voit peut-être mieux ici, hein, il est à genoux, il a une canne, un chapeau et des cheveux un peu plus rares, donc il est un peu plus âgé, et lui, la vie connaît un peu plus, il est passé par plusieurs épreuves, donc ce qu'il cherche c'est plutôt connaître de façon, alors là, pas du tout romantique, pas du tout contemplative, mais presque mesurée à la hauteur, sans surtout prendre un risque. Alors lui, il est effectivement dans un rapport hein, de connaissance, hein, beaucoup plus terre-à-terre au sens strict. Hein. Et puis vous avez ici un jeune homme, qui est à droite, qui lui a trouvé, pourrait-on dire, la position intermédiaire. Alors, il se recule quand même, et il s'adosse à un tronc. Il est quand même appuyé par des petits buissons qui lui font comme une sorte de filtre ici. Et là, il a les bras croisés, donc surtout ne pas agir, et concentrer la contemplation. C'est-à-dire que lui regarde vers l'infini, effectivement, peut apprécier l'ampleur du paysage par ce recul, on va dire, presque philosophique.
Donc, si on analyse bien, la dame, pour le monsieur qui est agenouillé, représente une espèce d'idéal, elle remplace les paysages qui est en concurrence avec les paysages pour monsieur, là.
Alors, lui, il est plutôt ignorant. Alors, il y a une autre histoire. Il a une autre histoire, c'est que celle de gauche et celle de droite, c'est au sein que la joie d'être riche est assez subtile. On peut imaginer que ce sont deux amoureux séparés pour avoir le père de la fille ou de l'homme, hein, le baron, etc., qui les empêche, etc. Et eux, en même temps, sont d'une sorte de. Alors, le désir à la fois, on va dire, érotique mis à distance, correspond aussi à une sorte de désir d'absolu devant le paysage, mais ils communiquent. Ils sont séparés par le gouffre, la brèche, mais ils communiquent aussi par les arbres. Ah, oui. Parce qu'elles s'appuient aux arbres, et tout d'un coup, leur pensée. Métaphoriquement, l'arbre est comme une pensée et il se retrouve par les arbres dans les frondaisons, etc., se retrouve. Et vous avez ici, de façon assez subtile, le romantisme amoureux, le romantisme du paysage, avec au milieu le danger, y compris, que ça peut représenter, hein, l'idée qu'on ne peut plus aller plus loin, toute tentative est un peu limitée. Et là, vous avez effectivement la mer et le ciel qui se rejoignent, vous voyez juste des petites touches blanches, ce sont des voiliers. Donc ça vous donne une impression de l'ampleur absolue et la grande brèche comme ça. C'est une vide comme ça. Alors, ce côté un petit peu absolu de Caspar David Friedrich, vous voyez, c'est très différent des paysages de Turner. Mais on comprend bien qu'il y a l'idée de solitude, l'idée de contemplation, l'idée d'infini, l'idée d'absolu, etc., les éléments, et puis cette expérience un peu limite. Alors, celui-ci aussi est très connu, de Friedrich, c'est Voyageur au-dessus d'une mer de nuages. Alors là, on peut dire que c'est l'archétype vraiment du romantisme allemand. Alors, à la différence de Turner ou des Français, vous avez, c'est une peinture qui est extrêmement lisse et contenue. Il n'y a pas d'effet de geste, il n'y a pas d'effet de matière. On peut dire que c'est presque une illustration très limpide d'une pensée très claire sur le romantisme. Hein. Donc la peinture ici a peu d'autonomie. Il n'y a pas de gestualité, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de mouvement. On est vraiment, y compris dans une sorte de méditation. Donc la façon de peindre de Caspar Friedrich, elle est aussi très mesurée, parce qu'il s'agit ici ni d'agir, ni de se perdre, mais au contraire de concentrer. On est vraiment dans une expérience mentale, ici romantique, qui est très proche du romantisme allemand, hein, de l'idéalisme allemand, c'est contemporain de Goethe, de Hegel, enfin, Hegel un peu plus tard, etc. Vous avez quand même cette idée-là d'une force qui doit être aussi contrôlée, mesurée, qui va donner la grande philosophie, hein, c'est aussi. Alors, la musique romantique allemande, c'est aussi la grande période du romantisme allemand en musique, hein, Beethoven, Schubert notamment, etc. Donc vous avez là, cette idée est très claire. Alors là, vous avez vraiment cette idée que ce personnage non seulement ne peut plus aller plus haut, mais ne peut plus aller plus loin. Il s'est séparé et coupé du monde, il nous tourne le dos. Ses contemporains sont sous les nuages, il les a quittés. Mais il y a un moment, cette quête et soif d'absolu atteint sa limite. Et dans ce cas-là, une fois qu'elle a atteint sa limite, il ne reste plus qu'une chose, c'est contempler. Contempler et éprouver cette immensité qui semble rayonner en lui ou rayonner de lui. D'un coup, il est en phase avec cette amplitude. D'un coup, il trouve une sorte d'harmonie. Seul, hein, donc un être humain peut tout d'un coup être à l'échelle d'un paysage absolu. Là, on est vraiment dans une radicalité très limpide. Chez Friedrich, c'est presque une leçon presque didactique. C'est très facile à comprendre. C'est assez séduisant parce que les effets de matière là, sont remarquablement faits. Le peintre lui-même, est, en tant que peintre, est presque modeste devant la nature parce que, on va dire que, là, je zoome un peu, hein, on est presque dans de l'art chinois d'ailleurs, avec le mist, là, le brouillard qui cache les montagnes et les plantes qui émergent, etc. Et là, on est aussi dans une nature qui est incontrôlable par l'humain. C'est un infini, on ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas faire de route, ni de chemin, etc. On ne peut que être à sa hauteur au sens strict, c'est-à-dire être à la hauteur du paysage, et là on le voit. Alors le fait de nous tourner le dos, c'est aussi nous inviter peut-être à le suivre, à le remplacer. Ça aussi, c'est une image romantique de la solitude, évidemment. Alors ça, je passe. Ah ben, c'est le seul Friedrich que je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer quand même d'autres parce que je pensais en avoir mis plus. Alors, 19e. Le romantisme du paysage. Ah, c'est là. Ah oui, Friedrich, quand même. Je voulais vous en montrer d'autres. Alors là, alors il y a celui-ci qui est très clair aussi, l'adéquation au paysage, on va dire personnage. Personnage-paysage, chez Friedrich, c'est une sorte de narration. Il y a aussi une sorte de philosophie, on va dire, de la vie. Ça, c'est les trois âges. Alors, là aussi, c'est limpide. C'est une sorte de discours. C'est un discours, mais on est toujours à une frontière, à une limite plutôt. Bon, on ne peut pas aller plus loin, hein, sur Terre. On est vraiment une sorte de paysage de l'Allemagne du Nord, hein, et peu spectaculaire, mais face à la mer du Nord et à un horizon. Et vous avez ici trois groupes de personnages, un homme âgé avec des cheveux gris, un chapeau et une canne, un couple d'âge mûr, moyen, et deux enfants. Et vous avez un grand bateau, deux bateaux moyens et deux petits bateaux. Donc il y a forcément une identité entre une équation entre le personnage plus âgé et le bateau qui rentre au port, qui a commencé à baisser les voiles et qui revient au rivage. Le couple au milieu de la vie, ils sont à l'horizon, avec ici le bateau masculin, on va dire, qui évoque le plus le costume masculin, et ici le bateau plus féminin avec une robe, ici une voile qui évoque plutôt la robe. Et les deux petits bateaux qui sont encore auprès du bord, qui vont caboter, qui sont les deux petits enfants qui jouent encore. Donc de toute façon très claire, le bateau est une métaphore de la vie, l'horizon aussi, hein, avec le risque que ça peut correspondre, là on est à un horizon calme, etc. Donc là encore, vous avez une idée un petit peu romantique du cycle de la vie, de la nature et du paysage qui est une sorte de miroir de la vie, de ses états, de ses dangers, de son calme, les parties sûres, les parties risquées, l'horizon auquel on peut disparaître, à la mûre, avec les tempêtes qui peuvent arriver, le temps qu'on rentre au port, etc. Et le plaisir pour le monsieur de pouvoir rentrer au port, etc. Et vous avez quelque chose qui est rare chez Friedrich, c'est ce homme plus jeune qui se tourne peut-être vers son père, que l'on voit de face très peu, mais on voit très peu des gens de face chez Friedrich. Donc là, il y a quelque chose, cette idée quand même de assez apaisé, ce qui est assez rare chez Friedrich, c'est quelque chose comme ça d'apaisé. Alors, quand vous avez Friedrich, vous avez à peu près... ils sont presque tous selon le même principe. Voilà un autre Friedrich par à sa fenêtre, hein, qui est aussi très intéressant. Sur, alors là, femme un peu enfermée, qui n'a que la fenêtre pour rêver, donc elle n'est pas dans un absolu, etc. Et donc, ce cadre, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit donc le paysage, le ciel, et un bateau. Alors quand le bateau, cette idée, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui part, qui va rêver par délégation, s'échapper par délégation? Alors ça, c'est une œuvre qui est très intelligente, y compris au niveau de la construction, puisque vous avez le mur et la fenêtre, vous avez les surfaces et les volumes, vous avez la fenêtre dans la fenêtre, l'ouverture réelle, l'ouverture en même temps avec la vitre, l'écran, hein, et ici la boîte dans laquelle tout se passe, donc quelque chose de très subtil aussi sur la construction de l'espace au niveau de l'édon. Une grande subtilité chez Gaspard David Friedrich. Celle-ci est plus classique sur un couple, cette fois-ci à nouveau clair de lune. Alors, la lune ou le soleil couchant, c'est toujours cette idée aussi d'une bascule. On est toujours à des frontières, en fait. Quand ce n'est pas une frontière de paysage, c'est une frontière du jour ou de la nuit. C'est qu'il y a quelque chose qui va changer. On va changer de monde. Alors ça, c'est toujours la notion d'ailleurs dans le romantisme. Donc, vous voyez, elle est déclinée autrement, hein, que chez Friedrich ou chez les romantiques français. Mais il y a toujours quand même cette idée de l'ailleurs. Hein. Alors la nuit, on a vu, on l'avait trouvée chez Goya, on la trouve chez Fuseli, on la trouve chez Friedrich, on la trouve bien sûr chez Friedrich, on la trouve aussi chez William Blake, et on la trouve même chez Turner, avec les bateaux, la nuit, etc. Donc cette idée que la nuit comme moment romantique où on ne peut plus être dans l'action du quotidien, on est dans un autre monde. Hein. Et là, vous voyez que même dans un paysage qui est moins spectaculaire, les personnages aussi sont une sorte de limite. Hein, cette idée qu'ils sont sur une sorte de roche, on ne sait pas si derrière il y a un trou, une crevasse, etc. Et ils sont inactifs, ils sont dans une sorte de, encore, contemplation, de façon très claire. Alors, la fin du monde pour Friedrich, ça sera assez clair. Attends, la fin du monde pour Friedrich, oui. C'est que d'abord, lui-même va finir ses jours dans un hôpital psychiatrique, hein, atteint de... Alors, je ne sais pas quel type de maladie mentale il avait exactement, je ne sais pas si c'est paranoïa, etc. Toujours est-il qu'il finit sa vie effectivement extrêmement perturbé. Donc, à force de dans une sorte d'absolu, de quête de l'absolu, effectivement, le monde réel n'amène que des illusions, des déceptions. C'est un petit peu ça aussi l'histoire de Friedrich, le romantique absolu. Mais à un moment, il ne trouve plus du tout sa place sur Terre. Ou alors, on le voit, donc l'idée de fuir le monde, on l'a vu même chez Turner. On voit se réconcilier avec le monde, c'est par l'action révolutionnaire chez Delacroix, mais vous avez cette idée que sinon, il y a cette idée de fuir le monde. Dans un des derniers tableaux de Friedrich, s'appelle la débâcle. La débâcle, et là, c'est un paysage, alors là, il n'y a pas plus absolu et plus radical. Alors là, c'est une question, mais voyez-vous le navire dans ce tableau? Il y a un navire. Et voilà, une fois qu'on a dit, c'est là, il est là. Vous avez la proue du navire et vous avez le morceau de mât et tout petit peu de voile. Donc la débâcle, alors si on a vu. Là, non, alors ce que l'on voit au loin, ce sont des glacis, ce sont des sortes de blocs de glace qui sont figés dans la débâcle. Hein, c'est le moment le plus dangereux quand les glaces se cassent, effectivement, elles se rencontrent, elles se cognent, etc. Et vous avez ici un bateau, justement. Alors quand on voit que chez Friedrich, le bateau, c'est une métaphore du corps humain et de la vie. La mer, c'était aussi ça. Vous avez cette idée là d'un échec total, puisqu'effectivement, là, l'aventure se termine par une sorte de fusion. Alors là, c'est une confusion négative. Au lieu d'être une confusion énergique comme celle de Turner, là, tout se mêle. La terre, l'air, l'eau et la lumière deviennent une seule et même chose. C'est un univers de glace infini, où l'eau devient de la terre, de la glace. Hein. L'air est en même temps rempli de nuées, de nuages, de froid et de givre, il n'y a plus personne, hein, et la lumière, effectivement, n'éclaire que des moments de désolation. La pureté de l'eau devient la glace sale, etc. Et puis, au lieu d'être dans la fluidité, l'eau a perdu sa fluidité, devient un élément solide, menaçant, et qui brise tout. Alors, je crois que un de ses frères était mort dans un naufrage de bateau dans la mer du Nord glacée. Alors ça, c'est tout, tout bête. Ça n'a rien à voir, mais quelque chose un peu à voir. Pierre Loti, plus tard, un siècle plus tard, un des frères de Pierre Loti, le frère de Pierre Loti aussi, il meurt en mer, et c'est ce qui va souvent motiver Pierre Loti pour retourner, hein, la mort de son frère en mer, voilà, lui aussi à voyager, à parcourir les mers, une sorte de reconquête. Là, au contraire, la mort de son frère en mer, je crois que c'est aussi une des choses, une sorte de... Cette mort inaccessible, impossible, c'est aussi sans doute un des éléments de la mélancolie très dure, hein, de Caspar David Friedrich. Alors, vous voyez que là, les expériences limites, hein, on les trouve très clairement dans l'œuvre de Friedrich. Alors, il a peint beaucoup de paysages, hein, qui sont souvent de la même nature, on va dire, qui sont assez proches, sur lesquels il y a une sorte de vocabulaire. De ce point de vue-là, Friedrich est quelqu'un qui a une sorte de vocabulaire plastique assez clair. Alors, quelqu'un qui est, on va dire, moins romantique, mais quand même assimilé au romantique, c'est dans mon autre fichier, j'aurais dû faire ça mieux. C'est là. C'est John Constable. La prononciation, l'accent. Constable. Ça. Alors, là, je crois que j'ai un document avec une moyenne qualité. Là, il y a des éléments qui sont. On va retrouver un peu plus Turner. Alors, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'absolu, le jaune, etc. Mais on peut dire que chez Constable, tout est unifié par l'humidité incroyable. Et alors là,
aussi,
et certains Salisbury sont... La cathédrale de Salisbury, moi je crois me souvenir, c'est un format assez grand. Hein. Alors il y a peut-être des petits, hein, mais... Alors ici, c'est une sorte de romantisme mélancolique, hein, peut-être moins radical mais absolu. Puisqu'on est dans une sorte de contemplation, là encore, d'un paysage qui est un peu dérangeant par son taux d'humidité. Franchement, c'est assez incroyable, puisque le goût, là, il y en a partout. Et ce qui est remarquable, c'est Constable, c'est pour ça que les documents, là, sont horribles, parce que ce qui est extraordinaire chez Constable, attendez, peut-être qu'on va mieux ici, non. Enfin, je trouve des très bonnes... C'est la précision de sa touche et aussi le fractionnement de sa touche. C'est un des premiers, surtout dans les cathédrales de Salisbury, à avoir ces sortes de micro-touches. C'est comme si c'était autour de gouttes, presque d'eau. Comme si sa peinture était une sorte de fractionnement d'infini, cette fois-ci. On peut se plonger presque à l'infini dans la peinture à cause du fractionnement. C'est pour ça que Turner et Constable, l'air de rien, vont influencer directement les impressionnistes. L'un notamment par la lumière, la matière, et l'autre par cette espèce de touche qui devient presque vivante. Et cette sensation de l'air aussi, capter le climat, capter le paysage dans son absolu, hein, comme ici, l'humidité, et y compris le ciel couchant, la charrette engluée ici, ou alors dans l'eau dans laquelle les chevaux vont boire, etc. Le jour plus ou moins finissant, l'averse de pluie, la cathédrale au loin, donc on est quand même dans des éléments un petit peu absolus, la religion, la cathédrale, le passé... Le ciel, l'arc-en-ciel, les nuées, l'eau, etc., la solitude. Mais vous avez vu qu'on n'est pas dans du grand spectaculaire, on est dans une sorte de romantisme du quotidien, avec une technique aussi qui est assez remarquable, qui est aussi inventée. Oui ?
C'est de lui, c'est une peinture.
Ah oui, bien sûr. Oui. Là, ça, c'est. Voilà, j'ai un truc tout bête, hein. À cette époque-là encore, vous avez soit de l'aquarelle, soit de la peinture à l'œuf, soit de l'huile. Et même des effets comme ça ne sont possibles qu'à l'huile, parce que les transparences, la finesse des touches, et leur transparence, leur luminosité, en acrylique, on ne peut pas, en acrylique, bon, terme de ce point de vue-là, c'est un plat, une superposition, mais cette espèce de brillance, hein, qu'il y a chez Constable. Alors là, c'est vraiment une touche, c'est presque nacré, mais évidemment, là, si je zoome, j'ai des pixels. Donc c'est comme si on se perdait, hein, dans ce paysage, autant de touches qu'il y a de taches lumineuses chez Constable. Alors, c'est aussi un des premiers artistes du paysage aussi pur, hein, voilà, presque sans sujet, il n'y a quasiment personne, hein, solitude, jour finissant, automne, il n'y a rien de séduisant a priori. Donc il s'agit aussi, dans cette espèce d'humidité mélancolique, de trouver aussi un état d'âme. Donc là, vous avez toujours cette idée, état d'âme, état du paysage et grande solitude. Là encore. Et puis trouver une certaine sérénité, ben, malgré les nuages, malgré l'automne, malgré la pluie, malgré le mauvais temps, cette espèce de tranquillité, un peu mélancolique. Et alors, ça évidemment, c'est aussi, alors il est contemporain de gens, alors je vais pétir par le faire, comme Corot, hein, en France, évidemment, et puis plus tard un peu Millet, etc. Et c'est toujours cette exploration de l'art du paysage qui est nouveau au XIXe siècle. Rappelez-vous que c'est quand même un thème nouveau, puisque jusqu'au XIXe siècle, ce qui était privilégié, c'était les sujets. C'était histoire, portrait, mythologie, religion, etc. Donc, si vous voulez, tout ce qui était aux scènes de genre, il y avait des gens. Les natures mortes étaient assimilées à des vanités, on a déjà vu la question, sauf qu'elles pouvaient devenir intéressantes avec le jardin, Palais Coster, ça devenait un enjeu un peu plus intéressant, dense. Et le paysage n'avait pas été encore investi, ça peut être des paysages de décor à la peinture hollandaise, mais ça commence à devenir un sujet à part entière. C'est le sujet à part entière. Alors, ce qui est important dans le paysage aussi, et ça c'est peut-être une sorte d'avatar du romantisme, c'est ben, l'idée que le paysage, comme état d'âme, c'est aussi un point de vue, c'est voilà, un ressenti pur. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'idée à préconçue, il n'y a pas de, c'est pas spectaculaire, donc ce qui compte c'est la façon dont un individu seul eh bien, est dans la nature, est dans le paysage, il va traduire cette espèce d'émotion, de sentiment, de sensation purement subjective. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de description, narrative, etc. On est vraiment dans une pure subjectivité. Alors, progressivement, ça va donner effectivement la subjectivité absolue des impressionnistes. Effectivement, ils vont aller jusqu'au bout de cette espèce de perception de l'air, du climat, de la lumière. Et c'est ça que Constable introduit aussi. Vous voyez, une sorte de passage de romantisme dans sa solitude, en se coupant du monde, en vient à se penser le centre du monde, donc le point de repère. Et donc, ce qu'il peint, ce qu'il voit, devient sa propre référence. Donc il réussit à imposer aux autres une subjectivité totale. Ça, c'est... Alors, c'est une subjectivité totale, en même temps, on peut tous avoir des émotions et avoir vécu ce type d'ambiance et de lumière, évidemment. Alors voilà, Constable, ce sont des images. Alors, Constable va aussi faire des croquis sur, quand même, c'est là où il y a une dimension romantique. Ce sont des aquarelles ici, des carnets de voyage, parce qu'en Angleterre, c'est un des... Alors ça, si on va trouver ça dans le romantisme d'une manière générale, vous avez les ruines, mais vous avez aussi le passé lointain, néolithique, paléolithique. Et en Angleterre, vous avez des magnifiques monuments mégalithiques ou néolithiques, vous avez Stonehenge, on va voir Stonehenge, vous avez aussi des ruines romaines, et vous avez aussi des collines ou des cercles de pierre qui sont assez, des tumulus qui sont assez extraordinaires, surtout dans la région de Salisbury, justement. Salisbury, on avait la cathédrale de Salisbury, tout le Wiltshire, donc le sud de l'Angleterre autour de Salisbury, vous avez une présence, ma femme y a vécu des années où j'y allais souvent, et là vous avez des sites néolithiques extraordinaires hein, qui sont très très beaux. Il n'y a pas que Stonehenge, il n'y en a pas. Alors là, c'est cette idée de passé très lointain, donc l'idée aussi. Les cieux chargés du passé, de l'infini, le fait que nous sommes peu de choses dans le paysage, hein, peu de choses dans l'histoire, c'est quelque chose qu'on voit là. Alors, chez les Anglais, puisqu'on reste sur les Anglais, vous avez cet écrivain John Ruskin, qui est un de ceux qui a défendu d'ailleurs Turner, qui se trouve, ça je ne sais pas, qui est un remarquable peintre d'aquarelle. Et, comment ça fait Turner hein? Alors, c'est un de ceux qui a défendu Turner le plus. Donc, John Ruskin aussi. Il a écrit sur Venise, R-U-S-K-I-N, John Ruskin, c'était un des défenseurs de Turner, et c'est aussi un des écrivains poètes sur Venise, et vous avez aussi quelqu'un qui l'a fait un art du paysage et des cieux, toi aussi. Des cieux purs.
Non,
alors, évidemment, d'ailleurs, le lien se fera naturellement, si vous voulez, pas des romantiques, mais des paysagistes aux impressionnistes aux japonais. Parce qu'il y a cette idée de la contemplation, il y a cette idée d'être capable de faire le vide, d'arriver avec peu de choses, On cherche pas l'histoire, on cherche justement à capter les éléments. Et ça, c'est une démarche nouvelle au XIXe siècle dans l'Occident. Puisque la tradition occidentale, c'est d'amener tout son attirail intellectuel et culturel. De tout passer au crible d'une sorte de connaissance. Là, ils inversent progressivement la tendance, c'est-à-dire qu'on arrive vide. On arrive vide et on essaie de se remplir de ce que l'on voit, la contemplation. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un lien assez fort entre le Japon et l'Angleterre, puisqu'il y a plusieurs liens. En fait, c'est des îles, ce sont des empires, ils sont des offenses et fous de leur culture, ils peuvent être à la fois cool et violents, ils sont dans une sorte de réserve permanente et en même temps, quand ils se lâchent, ça fait mal. Il y a beaucoup de points de vue. C'est que, d'ailleurs, le premier lien qui se fait entre le Japon et l'Angleterre, avec le Japon et l'Occident, c'est avec l'Angleterre. Vous avez cet écrivain extraordinaire qui s'appelle Natsume Soseki, un écrivain japonais, qui est un des premiers à avoir fait le lien, à avoir enseigné l'anglais, à être venu à Londres, etc. Alors, l'Occident est souvent arrivé au Japon par l'Angleterre. C'est la culture anglaise qui est arrivée le plus. Et ensuite, on verra plus tard aussi comment le Japon est arrivé aussi en France par les impressionnistes et mutuellement. Donc, si vous voulez, c'est un nouveau paradigme de vision du monde. Puisqu'effectivement, on arrive dans une certaine modestie. On arrive dans une certaine modestie, alors que toute la tradition intellectuelle du XIXe siècle, c'était on venait avec sa Bible, avec sa philosophie, avec ses références, avec sa science, avec ses connaissances, avec ses histoires, et le monde, on le passait au crible. C'est pour ça que l'art du paysage renouvelle, y compris, une manière d'être au monde. Et là, voilà, ça c'est du Ruskin, c'est un minimalisme total. Un minimalisme total. Alors, Ruskin se permet ça, parce qu'il n'est pas peintre officiel. Comme je vous l'ai dit souvent, c'est dans les brouillons, ça peut être les gens qui n'exposent pas parfois, ou qui ne sont pas tenus, dont on n'attend rien, sont parfois plus libres. Et John Ruskin était surtout poète et écrivain. Sa peinture, c'était des expériences. Et en fait, maintenant, quand on voit les peintures de John Ruskin, on les trouve d'une modernité extraordinaire. Parce qu'on verra ça assez souvent. Donc voilà Ruskin. Et vous voyez que ce sont des idées qui font leur chemin là aussi. Issue extraordinaire de Ruskin. Alors, fluidité. Alors là, c'est la lumière pure et l'eau en suspension. On est vraiment dans un minimaliste. Et là, on est dans presque une peinture pure. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de dessin. C'est qu'il n'y a pas de dessin, il y a juste des coulures, des surfaces, des couleurs. Et là, en quittant la terre, il y a juste une ligne de terre minimale. Et encore, on ne sait même pas si c'est ça. Et là, on est près dans vraiment une sorte de couleur pure. Ah, pourquoi j'ai remis Second Stables encore. Le gothique, c'est aussi de grand. Dans le gothique, il y a une part presque romantique, parce qu'il y a une sorte d'excès, il y a cette captation de la lumière, il y a un lyrisme. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas dans cette espèce de mesure du roman, il y a une démesure dans le gothique, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'ils vont retrouver. Il y a un renouveau du gothique avec le romantique. Et on va le voir d'ailleurs avec Totor, notre ami, le meilleur. Alors, ça, c'est toujours Stonehenge, le passé aussi. Ça, c'est Stonehenge, donc à Londres, dans le Wiltshire, près de Salisbury. Ce sont les grandes pierres, les monolithes et les néolithiques, ça a à peu près 5000 ans, vous savez, donc plusieurs cercles. Et ça a duré pendant presque 1500 ans. Alors maintenant, il y a des barrières, il y a un parking, il faut payer. Moi, j'ai connu ça, on garait la voiture, on allait au pied, on se baladait. Il n'y a personne. Non, non. Voilà. Alors bon, c'est. Et le passé. Alors, je passe un peu sur Jules Verne, et j'arrive à Victor Hugo, justement. Là aussi, Victor Hugo, quasiment contemporain, né en 1802, donc quasiment contemporain, et là vous retrouvez les éléments. Alors lui, c'est pas un peintre, donc si vous voulez, il va pas. Ça aussi, ses peintures, c'est essentiellement des peintures au lavis, parfois au café, ou avec des taches, il joue beaucoup aussi sur le hasard. Hein. Alors là, on va retrouver la ruine, on va retrouver le passé, on va retrouver la mer, on va retrouver la nuit. Et tous les thèmes de Victor Hugo dans cette espèce de tension extraordinaire. Victor Hugo, avec Notre-Dame de Paris, réhabilite aussi la grandeur gothique, la dimension assez exceptionnelle du gothique, avec la mer, avec les travailleurs de la mer, avec toutes ces odes à la mer, etc. Victor Hugo va quand même vivre pas mal de temps à Jersey, exilé, etc. Donc Victor Hugo, c'est quelqu'un qui aussi est un nostalgique de l'action. Donc vous avez aussi quelqu'un dont le père était maréchal d'Empire, donc cette idée du l'action, dans la transformation du monde par l'action, et tout d'un coup, la solitude terrible, où justement, pour lui, tout ce qui devient, il va essayer la politique, il essaye, vous savez qu'il devient, au début, il est quasiment presque restaurationniste, puis il devient Louis-Philippe, et puis il évolue progressivement, il va devenir républicain au début avec Napoléon, il va soutenir la candidature en 1848 de Napoléon III, et ensuite, la grande trahison pour lui, c'est en 1851, quand Napoléon III supprime la République et fait le deuxième empire. Et alors là, c'est là où il est exilé, il dit Napoléon le Petit, etc. Et Victor Hugo va progressivement jusqu'à soutenir ensuite les communards. Louise Michel, il va lui envoyer de l'argent toute la fin de sa vie, il va me la recueillir, etc. Donc c'est Victor Hugo évolue progressivement avec justement une sorte une tentative d'agir, d'action, mais qui d'un coup est vaine dans les institutions du 19e siècle français. Et donc il va se ressourcer dans les absolus, dans des quêtes d'absolu. Alors, les Misérables, les révoltes qui mènent à rien, qui sont épuisées, c'est extraordinaire, c'est la défaite. Donc une sorte de... vous avez ça dans la mort aussi, dans Notre-Dame de Paris, qui est extraordinaire, vous avez ça sur les Chouans, vous avez ça sur l'homme qui rit, vous avez ça dans toutes ces puissances de Victor Hugo, cette espèce d'incroyable monde hein, qui s'entend très contrasté, il y a toujours chez Victor Hugo un extrême de lumière et d'ombre, et on va le retrouver dans sa peinture, tout à fait romantique aussi. Alors, le thème du bateau aussi, perdu dans la tempête, hein, donc c'est quand même quelqu'un aussi, où c'est Anonox, etc., hein, ses poèmes aussi. Alors, le flux, la puissance de Victor Hugo, elle est dans le personnage, elle est dans son flot d'écriture, elle est dans ses visions du monde. Et vous retrouvez des choses qui sont assez proches de Turner aussi. Bateau perdu dans la tempête, là encore, qui sont là. C'est un dessinateur génial, hein. C'est peinture. Alors, il joue sur des taches, il joue sur le hasard, et puis sur des états de matière qui sont assez remarquables. Donc là.
Qui sont où ces trucs?
Alors je pense qu'ils sont au musée Victor Hugo, à Paris, mais ils sont être difficiles à voir. Tout ce qui est dessin, c'est rarement exposé. Mmh. Alors je suis un fan de Victor Hugo, j'ai habité pas loin de son musée pendant 3-4 ans, 5 ans. Il est place des Vosges. Mmh. Et j'y suis jamais. Donc je me promets d'y aller, parce que il a été fermé un certain temps, les places des Vosges de la musée Victor Hugo, et je crois qu'il y a pas mal de ces dessins.
Et il n'y en a pas non plus hein, dans la vallée de la Bièvre, ça va
Peut-être.
Oui, il y a la maison littéraire.
Ah, peut-être. Donc ça, je ne sais pas, mais alors les dessins de Victor Hugo sont des vrais. Alors, c'est vraiment là, il y a un peu de couleur, mais on est dans le principe romantique, y compris la pratique, presque du hasard, de la tâche qui le rapproche aussi de Turner. Là, vous avez aussi les effets de nuit, les effets de mer, le thème de la mer, hein, les nuages, les cieux, les silhouettes des villes. Et évidemment, alors ça c'est ma destinée, hein, la mégalomanie aussi, la puissance. Victor Hugo, il sent la puissance en lui. Vous savez que... Vous savez que vous pourriez aller bien aussi Notre-Dame de Paris. Non seulement c'était gothique, etc., mais ça faisait un grand H comme Hugo. C'est un grand H comme Hugo, parce que vous avez les deux tours, vous avez parti donc pour lui, c'était. Bon, il faut dire qu'il y a eu plus d'un million de personnes à son enterrement. C'est aussi quelqu'un qui a effectivement draine derrière lui une force et une puissance incroyable. Hein, qui écrivait debout face aux éléments déchaînés. Il y a ça, mais on ne peut même pas se moquer, parce que c'est vrai en plus. Plus le drame dans sa vie, avec la noyade de sa fille, avec la folie de sa deuxième fille, avec ses histoires d'amour compliquées, c'est rien de le dire, etc. Donc, c'est assez prodigieux. Donc, Hugo alors, est également un dessinateur-peintre, hein, il y en a beaucoup, avec quelque chose qui est... Donc, vous voyez, le lien ici se fait très clairement, hein, Turner-Hugo. Hein. Alors, sauf, il n'y a pas la couleur, parce que dire qu'un peintre se caractérise aussi beaucoup quand même par la couleur. Le plus difficile, c'est pas le dessin, c'est la couleur. Et ça, justement, parce que la couleur, on est dans l'indicible, on est dans la séduction, on est dans les ambiances, on est dans l'immatériel, l'irrationnel. Ceci dit, il y a aussi une virtuosité du dessin chez Hugo, évidemment, des masses et des lumières ici. Alors, la ruine de l'image et l'image de la ruine. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que une image avec des taches, c'est un petit peu comme si justement on était dans quelque chose qui se ruinait. Et donc l'image de la ruine et ruine de l'image, c'est des choses qui vont ensemble. Comme si l'image s'abîmait elle-même. Donc tout d'un coup, vous avez une dimension alors, un peu performative de sa technique, où vous avez des choses qui, on ne sait plus ce que c'est, si ce sont des taches ou des images, hein, ou s'il est parti des taches, ou s'il est parti d'images qu'il a ensuite ruinées avec des accidents. Donc là encore, quelque chose de rien de très cohérent chez lui. Là encore, il est très libre, donc il ne pose pas ses dessins. Hein. Attention, il y a assez de choses. Il y en a beaucoup. Hein. La géométrie en récupérait beaucoup. Alors là, on dirait un peu quelque chose qui s'apparenterait un peu au gothique flamboyant. Hein. Est-ce que c'est Rouen? Est-ce que c'est Mont-Saint-Michel? Est-ce que c'est une rêverie sur de grandeur possible, hein. Et ça, c'est tout. Les paysages, la solitude, le soleil couchant. On n'est pas loin d'un certain Van Gogh, hein, qu'on verra plus tard, dans le Nord, etc. Là, il est vraiment étonnant, ce personnage. Il est plus qu'étonnant.
Il est carrément...
Oui, c'est extraordinaire. Hein. Donc, voilà. Alors là, c'était un petit peu des contemporains autour du thème de Venise, de Gaulle, etc., de Turner. Et donc, là, je vais changer de chapitre. Et nous allons... voir maintenant, ça va changer beaucoup. Mais, vous allez voir qu'il y a un petit lien.
Donc, l'agriculture.
Un petit lien. Le veau blanc. Donc là, c'est Courbet. Le veau blanc. Je pars du veau blanc, puis après je. Vous avez vu, je m'écarte. Mais en fait, il y a. Alors, Courbet, le veau blanc. Alors, j'ai choisi ça, bizarrement, c'est une peinture qui est une de ses dernières peintures. C'est peu avant sa mort, il est mort en 77, je crois. Il est né en 1819, donc on est déjà cette fois-ci, on est en plein 19e siècle. Vraiment, avant, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout connu l'épopée napoléonienne, ni la Révolution française. Par contre, son grand-père était un révolutionnaire français. Alors lui, Courbet, il est de Franche-Comté. Pas un parisien, c'est un provincial de l'Est de la France, du Franche-Comté, la Franche-Comté. Comme d'ailleurs le philosophe Proudhon, hein, il fera un portrait d'ailleurs de Proudhon, etc. Donc il y a des figures quand même assez fortes et très ancrées aussi dans un territoire fort et puissant. Donc là, chez Courbet, une de ses identités d'ailleurs, ça sera son côté rural, provincial. Avec, y compris son arrivée à Paris, ça sera aussi cette idée que un ou deux Paris, un petit peu Rastignac, hein, je suis professeur, j'arrive à Paris, mais pas pour me fondre dans le parisianisme, hein, pour essayer de faire valoir mon point de vue, mes expériences. Alors, de ce point de vue-là, le point commun avec le romantisme, je voulais d'ailleurs Courbet, je reviendrai sur le veau blanc, mais Courbet, jeune, a un côté romantique. Hein, je reviendrai là-dessus. Ses premières peintures sont presque de nature romantique. Je reviendrai aussi sur Le jeune homme endormi, etc. Vous avez vu à chaque fois l'idée de la solitude, l'idée de l'autoportrait, l'idée de se questionner sur soi-même, les postures, hein, la solitude, la musique, les arts, la blessure, jeune homme blessé, etc., blessure d'amour, etc. Ou même ici, vous avez l'idée de la folie, ou même le désespéré ici qui va vers le suicide. Donc, vous voyez que chez Courbet, ce qui le relie quand il est prisonnier au romantisme, c'est la solitude, une certaine force qu'il sent en lui, suffisante pour se dire cette force que j'ai en moi, je vais l'imposer. Je vais imposer ma personne. C'est ce que je fais à moi, je suis légitime. L'individu que je suis est légitime. Alors, c'est bête à dire, mais c'est nouveau. Jusque David, jusqu'à Napoléon, l'idée c'était des cultures de masse. C'était qu'on faisait partie de groupes entiers. D'abord, tiers-états, aristocratie, machin, les intellectuels, etc. On faisait partie de bandes, de groupes. Il y avait cette idée de troupes militaires, hein, ou d'idéologie, ou de religion. Avec le 19e siècle, vous avez vraiment l'aboutissement aussi, le retour à l'individu pur et un peu seul. Et donc, qui se découvre dans le paysage, qui a mis de côté la religion, et qui donc. Devient aussi un élément essentiel. C'est-à-dire que tout à coup, on est légitime. Donc, c'est compliqué de savoir si on est légitime, parce que qu'est-ce qu'on va faire valoir? Qu'est-ce qu'on doit à la culture? Qu'est-ce qu'on doit à l'héritage? Qu'est-ce qu'on doit à soi-même? Donc, c'est pour ça que chez Courbet, vous avez d'abord aussi une quête autour de lui. Qui je suis? Vous avez cette idée qu'on va trouver dans les autoportraits. Alors, je reviens un peu au veau blanc, parce que... Courbet, là, quand même, s'éloigner du romantisme, parce que pour lire le romantisme est encore trop littéraire. C'est encore, finalement, pour lui, le romantisme, c'est une quête personnelle, c'est une expression de soi, mais qui qui correspond trop à des idées ou des a priori trop littéraires, trop lyriques, hein, qui sont dans une sorte de... qui laissent peut-être trop la part aussi à de l'inconnu. Et Courbet, pour justifier son point de vue, pour être légitime, va dire, ben moi d'abord je vais parler de ce que je connais. D'abord moi, et puis ce que je connais, ce que je sais, ce que je vois. Mais ce que je vois, attention, c'est là où il y a une opération intellectuelle chez Courbet. Ce que je crois connaître, il faut aussi que je me lave de toute idée préconçue. Donc c'est presque une sorte d'expérience. Alors, je prends le veau blanc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelques années, quand il sera à Paris, il va ouvrir un cours, il espère avoir des élèves, il n'en a pas tant que ça en peinture, et une fois, c'est une anecdote, mais qui est vraie, il était encore assez jeune, mais ses élèves arrivent dans l'atelier parisien, et dans l'atelier parisien, il y a de la paille, il y a etc., et sur la paille, comme modèle, il y a une vache. Alors, les élèves arrivent en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ils s'attendaient à avoir un modèle vivant, donc avoir des nus, des hommes posés dans des postures, etc. Il dit, bah, c'est une vache, plaignez-la. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et justement, il dit, mais vous n'avez pas d'idée de la vache. Quand vous n'avez pas d'idée de la vache, vous allez vraiment peindre ben, la vache. Vous n'allez pas peindre autre chose. Si vous avez un corps humain, vous allez penser, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là, etc. Mais là, vous n'avez pas d'idée de la vache. La vache, c'est vraiment, on va dire, l'animal le plus simple, enfin, sur lequel on n'a aucune idée. Il est là, il est là. Puisqu'il a, peignez-le tel qu'il est là, de façon brute, mais une présence. C'est une présence, soyez sensible à cette présence. Et donc, pour Courbet, c'est très important d'essayer de se détacher des idées préconçues, pour essayer d'être dans une sorte, la peinture comme une expérience directe. Alors, c'est pour ça que progressivement, il va assumer totalement cette idée-là. Il dit, ben, pour peindre ce que l'on connaît, alors ce que l'on connaît avec modestie aussi. Connaître, c'est déjà une prétention. On va dire ce que l'on vit, on va dire. Eh bien, il faut essayer d'être au plus près. Alors, c'est pour ça qu'avec Courbet, alors, on n'est plus du tout dans les infinis, on n'est plus du tout dans les lointains, on est vraiment dans le premier plan. Et son veau, il le présente au premier plan. C'est presque comme s'il n'y avait pas de volume, si vous regardez bien. On a presque l'impression d'avoir une surface. On a presque... Alors, il y a un volume. Le paysage derrière est limité à une sorte de fond. Et vous avez une très légère ouverture ici de ciel, comme s'il n'y avait pas de lointain. Alors Courbet aussi, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui est très intéressant du point de vue de l'histoire de l'art. Parce qu'en fait, c'est un peintre, justement, qui oublie un peu la fenêtre, mais qui peint la surface. Qui va dire, ben, moi je ne vais pas vous peindre des choses lointaines, vous peindre les soulignes, ce qui est au premier plan. Et donc, même le volume du veau m'intéresse peu, c'est la surface, son pelage, sa présence, etc. On ne raconte pas d'histoire, mais il est là. Alors, quand vous regardez de près aussi, attendez, je vais zoomer, j'espère que mon document est de bonne qualité. C'est quand même un grand raffinement. C'est, ça n'a pas l'air fin. Ça a l'air un peu grossier, une grosse tête de voiture. Et en fait, quand on plonge en Courbet, là, c'est de la peinture pure. Et là, tout d'un coup, il rentre dans le pelage un peu laineux de ce beau blanc, etc. Et là, vous avez une présence jusque dans le détail. Et une touche qui, en fait, est très fine. C'est une touche qui est très fine. Et donc, et alors là, par contre, tout un travail de surface. Comme si tout d'un coup, y compris la peinture, ne devait pas être une illusion du lointain. Il faut que la peinture soit une présence au premier plan. Alors, ce veau, c'est un truc tout bête, mais vous allez voir que vers la fin de sa vie, Courbet va être en prison, parce qu'il était communard. Donc, à partir de 71-72, il va en prison, il est emprisonné à Sainte-Pélagie, et il est un petit peu mis de côté, blessé, il est humilié, et quand il peint ça, en fait, certains pensent que c'est presque des autoportraits, c'est le veau du sacrifice. C'est un peu l'animal blessé, l'animal innocent, qui est un peu victime. Donc c'est peut-être pour lui aussi, c'est pas si réaliste que ça, il y a peut-être une dimension aussi personnelle hein, de cette innocence. Alors, cette idée de la surface et du premier plan, évidemment Courbet ne comprend pas tout de suite tout ce qu'il fait. C'est aussi un praticien, donc il va d'abord peindre avec une certaine franchise, avec une certaine énergie, ce qu'il faut. Alors d'abord lui, c'est aussi ben, qui je suis. Il s'explore, il va explorer. Alors ça, c'est une peinture inachevée, avec ici il y a des traces de peinture, il a laissé tomber. Le paysage est brossé avec quelques coups, etc. Il a un sens quand même des lumières et des couleurs, hein. C'est assez beau. Et puis là, c'est une sorte de brouillon. On voit bien qu'il n'aura plus évidemment ce peintre en train de sauter, donc c'est un peu mal fichu. On voit bien que c'est un montage entre un effet de miroir et puis une sorte de... Il a dû se peindre à genoux et peindre le précipice en dessous, mais on dirait presque une œuvre de jeunesse un peu maladroite, mais avec quand même une certaine force dans ce regard. Alors, on la voit mieux dans aussi Le Désespéré, hein, L'Espère ou la Folie. Et là, on voit encore, alors là, face à face aussi. Il n'y a pas d'échappatoire. On est vraiment devant. Il y a très peu de... Non, derrière, il n'y a rien. Derrière, quelque chose, une image un peu grossière, un peu, on va dire, lourde, qui fait que parfois courbé, on passe à côté parce qu'on dit, oh, c'est lourd, c'est un peu grossier, c'est pas fin, on n'a pas de lointain, on ne peut pas rêver, etc. Mais quand on regarde de près, c'est encore une très grande finesse. Très, très grande finesse, par exemple, sur l'anatomie, sur la lumière, sur le regard et le nez. Regardez les arcades, la délicatesse de la lumière sur le fond. Donc, sur cette face, toutes les légères nuances hein, de lumière et donc, qui donnent une grande force. Regardez les points, l'anatomie, même le blanc ici de la chemise, etc. Fait que Courbet, d'ailleurs, c'est toujours en ce sens-là qu'il va. Il réussira toujours à passer dans les salons, etc. Parce que ça reste un peintre d'une très grande efficacité. C'est qu'on voit derrière ces sujets qui sont provocateurs, qui sont parfois un petit peu durs, peu séduisants, voilà. C'est un peintre en air pur. D'ailleurs, c'est ça qu'il veut. Il veut montrer de la peinture. Il veut montrer. De la peinture qui soit là au premier plan et qu'on puisse apprécier presque pour elle-même. Quand tout d'un coup la peinture devient présence, hein, comme on le voit ici. Alors, un grand sens ici, vous avez peu de couleurs, hein, presque un camaïeu. Là, il montre aussi, même dans sa jeunesse, c'est un tableau de jeunesse, hein, puisque je ne sais plus exactement de quelle année il est, mais il est né en 19, là il a quoi, il a peut-être 25 ans, donc vous savez, c'est quelque chose de. 20, 45, les années oui, 40, 45, etc. Et là, c'est pareil. Il est subtil, il a compris plein de choses. Le premier plan ici, pas de lointain, et une ouverture vers le lointain, donc ici. Un paysage qui, l'air de rien, est très délicat. Par petites touches, mais pas spectaculaire. Quelques touches de couleurs, vous avez des dégradés, des roses, des bleus, des jaunes, etc. Donc, il sait très bien travailler le lointain et le paysage. Mais, ce qu'il va mettre en évidence, c'est cette présence physique au premier plan. Ça, c'est le jeune homme à la pipe, hein, ou l'homme à la pipe, il tient une pipe ici. Alors là, il y a le chien et lui, alors, la solitude aussi. Il est loin du paysage, il est loin du monde, il est loin de sa vie, il est tout seul aussi, c'est une grande solitude. Cette solitude, on va la retrouver assez souvent, mais c'est aussi pour lui, avant de peindre, ce que je vois, ce que je sais, ce que je perçois, il faut que je sache qui je suis, où je suis. Hein, c'est un petit peu, alors, le cogito ergo sum, avant de penser le monde, il faut savoir mon point de départ. Le point de départ de Courbet, c'est moi. Ce qui fait d'ailleurs que vous allez voir les caricatures, il va passer toujours pour mégalomane, il sera toujours caricaturé comme mégalomane, complètement délirant. Mais c'est cette idée de dire, bah, d'abord, je pars de moi, je peins mon monde, je ne vous peins pas d'autres mondes, je peins mon monde, donc il faut que je sache qui je suis, où je suis, et etc. Donc une sorte de chemin comme ça, finalement assez modeste, c'est pas de la mégalomanie, parce qu'il prétend pas penser tout le monde, il prétend juste montrer ce qui est autour de lui. Et en ce sens-là, c'est un peintre aussi intéressant. Alors là où il est intéressant, c'est vrai, par exemple, sur le noir, qui là aussi est très délicat. Si vous regardez les nuances, par exemple, sur le chien, hein, les délicatesses, y compris sur son vêtement, et regardez aussi son pantalon, l'air de rien, un carton, mais des petits liserés bleus légèrement satinés, qui sont aussi très délicats. C'est-à-dire qu'une sorte de délicatesse cachée, sur Courbet, hein, discrète. Et c'est comme sur ce paysage qui n'est pas spectaculaire. Mais si vous regardez bien des petites touches, etc., de couleurs, de bleu, de cobalt, très pâle, du rose, du vert aussi, presque céladon, ocre, etc., vous avez des dégradés très délicats. Et le ciel, qui passe aussi d'un ciel un peu couchant à un ciel très clair. Donc, alors, il sait qu'il est jeune, il a une sorte. Alors, il n'a pas suivi les grandes écoles, les grandes académies aussi. Donc alors, il faut qu'il y avait une académie locale. Hein, je ne sais pas si c'était à Besançon qui est allé. Alors, à Renan, il n'y a pas d'académie de peinture, je pense, mais il est de Renan, ça, effectivement. Alors, là, le jeune homme blessé, c'est aussi ce côté. Alors, évidemment, quand il arrive à Paris aussi, et puis, déjà, dans son milieu, vouloir être grand peintre. Bon, c'est déjà un petit peu un truc, il est plus ou moins bien compris, parce qu'il étonne un peu dans son milieu. Et y compris quand il arrive à Paris, c'est le plouc. C'est le plouc en plus qui semble un peu lourdeau, qui arrive avec ses stèles, avec sa manière de faire, avec un... Donc il n'est pas du tout dans l'état d'esprit du moment. Donc il est même, je crois même qu'il est plus ou moins refusé, je ne sais plus exactement cette histoire, mais peut-il que Courbet, c'est quelqu'un qui ne trouve pas non plus sa place, hein, qui ne trouve pas très bien sa place. Et donc ce sentiment de jeune artiste un peu incompris, on le voit aussi dans certaines de ses œuvres comme celle-ci, hein, le jeune homme blessé. Un autoportrait aussi, alors là, tout d'un coup, très moderne, hein, en contre-plongée. Tout d'un coup, il est en train de dessiner, il se dessine en train de dessiner. Là, on voit quand même une virtuosité, une grande aisance dans le dessin. Alors, je vais arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ça ne marche plus le dessinage? Ah, mais c'est alors là aussi, hein, ça c'est le jeune homme à la ceinture de cuir. Ceinture de cuir, alors. C'est aussi quelqu'un qui fait un peu ses classes, hein, un petit peu à l'ancienne aussi. Hein, à l'ancienne, on dirait presque un portrait de la Renaissance, y compris le costume, le carton de dessin, etc. Et le côté un peu pensif, solitaire, un peu mélancolique, jeune, les cheveux longs, libres, un costume très sobre, très simple, dans une ambiance noire, sombre, hein, sans au-delà de ça. Il y a, on dirait qu'il y a un point de main qui sont un peu grandes par rapport au visage, mais on le reconnaît bien. Alors, à chaque fois, il dit jeune homme, mais c'est lui, hein. Et donc, là aussi, au violon, alors, multiples allants, un cheveu un peu mouvant, etc. Alors, on voit aussi chez Courbet qu'il n'y a pas du tout la volonté d'effet, de couleur, de brillance, la virtuosité qu'il est, il ne veut pas la mettre, il ne veut pas séduire, on va dire, par des effets. Hein, il y a toujours cette espèce, il risque de déplaire, il risque la non-séduction, il risque cette espèce de frontalité, brutalité, qui fait que, là, par exemple, les couleurs sont grises, terres, le verdâtre, il n'est pas brillant, le violoncelle lui-même n'est pas du tout présenté avec le vernis, les couleurs chaudes, un petit peu acajou, noyer, ou je ne sais pas quoi, noisetier d'un bois de violoncelle, etc. Il n'y a pas du tout quelque chose qui évoquerait justement la musique, parce qu'il pourrait avoir de léger. Là, au contraire, vous avez quelque chose qui a une certaine austérité. Alors, on dit qu'en Franche-Comté aussi, c'est une tradition aussi qui n'est pas forcément rigolote. Hein. Il y a des hivers longs, il fait froid, il fait un peu sombre. Certains les reconnaissent, je ne sais pas. Mais vous avez aussi cette idée que là, on n'est pas, c'est pas le sud de la France, c'est pas la Bretagne, c'est pas la Charente, c'est pas celle de Lumière non plus, des choses comme ça. On est dans une sorte de côté un peu sombre comme ça, mais profond et fort. Et en fait, c'est ce qu'il essaie aussi de faire passer dans sa peinture, pour essayer d'amener les gens à apprécier cette manière d'être. Donc, mais évidemment, on n'est pas du tout dans le brio parisien. On n'est pas du tout dans ni dans le romantisme, ni dans le classicisme, ni dans ces effets-là. Vous avez vu qu'il y a une sorte de... Et de ce point de vue-là, Courbet, progressivement, essaie d'imposer vraiment au monde, parce que ça aussi, vous verrez chez lui, c'est quelque chose qui est très clair, c'est qu'il veut imposer aux autres, enfin pas imposer, il veut montrer au monde entier son univers. Ça, c'est une... il a une sorte de... C'est en ce sens-là aussi, qui passera comme une sorte de mégalo, c'est qu'il veut vraiment que les gens acceptent de voir aussi par ses yeux. C'est qu'il y a cette idée, il veut quelque part laver le regard de ses contemporains, leur dire, mais acceptez de voir le monde aussi tel que je vous le montre. Hein? Et de ce point de vue-là, vous verrez, il va aller très loin là-dessus. Alors là, le jeune homme, l'homme à la pipe, alors, l'air de rien, quand on voit, il y a une délicatesse des couleurs, là aussi des lumières, des ombres, qui sont presque déjà des ombres colorées sur les arcades, hein? Et très délicatesse aussi des matériaux, comme par exemple celle de la pipe, la chevelure, qui est exceptionnelle au niveau de la peinture, hein, le drapé un peu lourd, etc. Alors, une des choses aussi, alors là, regardez, ils n'ont pas tous la même taille, regardez cette peinture, attendez, je vais vous montrer la série. Courbet aussi est un des premiers peintres de série, en ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peintures au moins sur ce thème-là. Alors, je reviens ensuite un peu en arrière. Pouf, 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 toc, et je vais peut-être choisir une de celles, celle-ci, qui est peut-être la plus austère. Bon, c'est les sources de la loupe. La Loue, L-O-U-E, c'est la rivière qui prend sa source d'un prix d'Ornans. La source de la Loue, et la source de la Loue, c'est une sorte de falaise brute, si vous voulez, sombre. On voit, il ne montre pas le ciel, ou très peu le ciel, quasiment pas de verdure. On devine à peu près une baraque ou un moulin ici, à eau, ici, là. Donc vous avez vraiment une frontalité. Vous avez quelque chose, une sorte de falaise. Donc, quelque chose qui a l'air, en fait, stérile. Et tout à coup, de cette espèce de stérilité, il y a quelque chose qui vient du fond, c'est l'eau qui jaillit et qui arrive. Une sorte d'origine qui vient du lointain. Il ne va pas montrer lointain, il montre là où ça jaillit. On ne va pas voir l'eau sous terre, on la voit au moment où elle jaillit, où elle arrive ici. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez typique de Courbet. Vous avez une sorte de presque un mur qui est toujours ce premier plan. J'ai vu que ce soit le veau, que ce soit son visage, que ce soit la source de la Loue, qui est toujours cette frontalité, cette planéité. C'est cette présence physique du premier plan. Alors vous voyez qu'on est là cette fois-ci, là encore. Alors là, il y a quelques éléments de verdure, mais c'est toujours, on ne voit pas le ciel, on devine plus ou moins une lumière. Là, alors attendez, je zoome un petit peu, on devine quelqu'un qui est plus ou moins en train de repérer ou de pêcher, je ne sais pas quoi. Les sources comme ça, alors attendez, je vais revenir. Ah, mais pourquoi ça? Celle-ci encore. Celle-ci, alors là, on a vraiment du Courbet sur Jus. Il ose aller dans quelque chose qui n'est pas du tout séduisant. L'eau n'est même pas brillante, il n'y a aucune anecdote, personne qui nage, personne qui se noie, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de soleil couchant. Non, c'est juste de brutalité. Mais cette surface, en fait, est relativement trompeuse. C'est qu'il faut accepter de la laisser révéler ce qu'elle a à révéler. Oui, il va y en jaillir quelque chose. Alors, je ne vous cacherai pas. Alors, mon document est un peu meilleur. Il y a plus de nuances, de gris, de brun et de vert. Alors là aussi, vous avez peut-être zoomé, il y a une certaine délicatesse, en fait, dans les tons. C'est-à-dire que, quand on regarde de près, Courbet, il faut regarder ça, regardez, c'est de la peinture pure. C'est-à-dire que c'est presque de la peinture abstraite. On oublie le sujet, et il faut imaginer qu'il a regardé ça longtemps, pour traduire ça. Donc, là encore, pas d'idée préconçue, il a des cailloux à peindre, il regarde le caillou. Il essaye de s'éloigner le plus possible de la narration et du spectaculaire. Ça, on voit très très clairement. Et y compris jusqu'à enlever presque toute perspective. Il n'y a quasiment ni lointain, ni perspective atmosphérique, ni perspective linéaire. On est vraiment dans une frontalité. Et quand on regarde de près aussi, vous avez même, alors, dans le domaine des documents, presque des mousses, des lichens, des quelques vers, etc., vous avez une délicatesse, mais qui est cachée. Quand effectivement, alors, évidemment, juste ça, je vous dévoilerai pas le truc, mais quand il fera l'origine du monde avec ce sexe de femme, c'est un peu différent. Parce qu'effectivement, vous avez une frontalité sur le sexe, mais l'origine du monde, c'est la vie, le désir, la sexualité qui est autour de ce sexe, une sorte de côté un peu brut comme ça. Mais en fait, il y a toujours cette idée, une sorte de rudesse, un point de vue radical, mais en fait plus subtil que ce que l'on croit, plus subtil qu'au premier plan. Donc vous avez souvent, et cette idée d'une source qui jaillit comme ça, d'une terre un peu brute, eh bien, c'est aussi quelque chose que l'on peut assimiler à ce qui fera plus tard l'origine du monde. Alors là, on est quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, spectaculaire, un petit peu plus narratif, mais à la limite. Très peu, vous avez quelques éléments de roche, mais très très peu. Alors d'ailleurs, quand il fait des falaises, alors le paysage aussi, le paysage ici est monté de manière frontale. Regardez la part donnée au ciel, elle est toute petite, minuscule. Alors, au contraire, ici, c'est la falaise. Alors, vous voyez la différence entre les falaises de l'île de Rügen et le paysage de Caspar Friedrich. Et là, on peut dire qu'il s'éloigne de tout romantisme pour justement progressivement. Le romantisme, c'était surtout pour essayer de se connaître lui, pour essayer de. Mais très vite, il lâche effectivement la dimension romantique et il va vers cette espèce de constat, une peinture de constat, dans laquelle lui-même ne serait qu'une sorte d'ouvrier du regard. Et d'ailleurs, vous allez voir avec Courbet, de toute façon, c'est de modestie des origines, le côté artisan, le côté travail bien fait, le côté justement de la Franche-Comté, ce côté, pas loin, je crois qu'il y avait des montres, du travail paysan, du travail artisanal, il y a cette idée aussi d'une sorte de modestie, simplicité de quelque chose qui ne séduit pas par ailleurs, etc. Donc lui-même se voit un peu comme cette espèce d'ouvrier de la peinture. Et c'est un petit peu ça qu'il va essayer de faire comprendre. Il n'est pas un séducteur. Regardez les paysages qu'il présente à chaque fois. Vous avez vu le principe de frontalité que l'on voit là, c'est pas du tout un hasard chez lui. Il y a une part du ciel, mais c'est pas un soleil couchant, c'est pas un soleil de nuit, il n'y a pas encore de soleil, il n'y a pas du rougeoiement, il n'y a pas tout cela. C'est pareil. Donc, austérité. Et après, moi-même, c'est pareil, j'ai toujours une sorte de courbé, je ne suis pas attiré par les courbés. Mais quand vous voyez les courbés, de près, c'est pareil. Il nous demande aussi de faire un chemin vers lui. C'est quelqu'un aussi qui, là, il ose être presque non séduisant. Et là, d'ailleurs, regardez, une bonne partie du paysage, en fait, est dans l'ombre. C'est une très grande ombre portée. Et ça, c'est bien courbé, c'est en fait aller voir ce qui est dans l'ombre. Ce qui est un peu caché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va comprendre. C'est lui qui va d'ailleurs penser au terme de réalisme. Le terme de réalisme, et c'est lui d'ailleurs qui va être un des pionniers qui va créer une école de pensée et de peinture qui va appeler le réalisme. Alors le réalisme, justement, c'est pas l'illusion, c'est pas le romantisme, c'est pas le classicisme. Qui, quelque part, ne sont pas la réalité, parce qu'ils sont issus d'idées préconçues. Le romantisme, c'est une idée du monde et de l'infini qui peut être. Et donc, qui va finalement amener le peintre à peindre comme un romantique. Le classique, il va peindre aussi avec des idées, etc. Donc, il y a toujours cette idée que la peinture, elle souffre d'idées trop littéraires. Lui, il veut se déshabiller au niveau de la peinture pour arriver à cette. Et la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est montrer tous ces aspects, y compris ceux qui ne sont pas séduisants. Donc les choses cachées. Les choses cachées ou les choses qui sont dans l'ombre. On se permet. La réalité étant justement dans sa complexité. Ce n'est pas juste l'apparence, c'est aussi l'envers des choses. Et ça, on va le voir, ça va l'amener aussi à avoir une politique sociale. Alors là, voilà certains paysages, mais quand je parle de frontalité, là, les falaises, là. Au niveau du dessin, c'est une ligne horizontale. Les quoi? Elle est deux lignes horizontales. Là encore, radicalité, facilité. Elle est en même temps. Si vous regardez, il y a un petit visage au fond. Et tout d'un coup, on se dit, waouh, finalement, ce petit visage, waouh, c'est assez extraordinaire. Comment est-ce qu'il est situé en même temps? C'est trop. Mais c'est à nous de le deviner, d'aller jusqu'ici, etc. Et toujours, il met le nez sur une situation. Et c'est aussi à nous de faire ce chemin vers. Mais ça aussi, c'est des choses qui sont discrètes, cachées, comme l'eau, comme la finesse dans son pantalon, comme toutes ces choses. Toujours, vous avez comme le linage. Alors, ça c'est un détail, mais il découvre la mer. Il va à Palavas, dans le sud, et là, vous avez homme libre saluant la mer. Alors tout d'un coup, la mer, c'est pareil. Quand il va voir la mer à Palavas, il ne regarde pas la Méditerranée, bleu, machin, les beaux arbres, les pins, etc., les maisons. C'est la mer, mais dans ce qu'il y a plus avant, oui.
Ça se rapproche quand même.
Ben oui, du tableau de Caspar Laëchevich. C'est en ce sens-là qu'il y a, dans le romantisme, le passage du romantisme au réalisme, il y a une petite filiation, vous savez. Mais c'est un des rares où, effectivement, tout à coup, il y a un certain lyrisme, tout à coup, il lève le chapeau, tout à coup, il découvre la mer. Et alors, pour lui, ce qu'il voit dans la mer, c'est pas le côté spectaculaire romantique, c'est la brutalité de l'élément. C'est vraiment là, l'horizon, la mer, dans ce qu'elle peut avoir de fort, une présence totale, et aussi la mer comme une surface. Parce qu'en fait, Courbet, ce qui l'intéresse, vous êtes plus ou moins rendu compte, c'est les surfaces. La surface des roches, la surface des tissus, la surface du pelage du veau, et la mer c'est une surface, et l'herbe aussi, ce sont les surfaces. Pourquoi les surfaces? Parce que la peinture c'est une surface. Et c'est en ce sens-là que Courbet, l'air de rien, est un des peintres les plus vénérés par les peintres modernes, parce que c'est un des premiers qui surtout dit, mais la peinture, avant d'être une fenêtre, c'est une surface. Quand vous peignez, vous badigeonnez une surface. Donc on peint, on recouvre une surface. Un artisan, on a un pinceau, on a un tableau, on couvre une surface. Donc il faut s'intéresser aux surfaces. Qu'est-ce qu'une surface peut avoir d'intéressant? Donc, plutôt que les volumes, etc., qui sont des illusions, parce que finalement, représenter un volume, c'est faire une illusion de trois dimensions, même pas de quatre dimensions. Donc, le réalisme, c'est là où Courbet devient, en fait, très profond. C'est que c'est l'artiste qui non seulement s'intéresse à la réalité extérieure, et aussi à la réalité de la peinture. Qu'est-ce que c'est que peindre? C'est recouvrir une surface. Voilà. Pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. C'est pas... Après, on peut faire autre chose, on peut faire ce qu'on veut, mais avant, on recouvre une surface. Donc, si vous voulez, oui, c'est un des premiers artistes qui pense aussi à la réalité de la peinture. La réalité comme pratique. Alors là aussi, c'est toujours la mer. Alors, vous voyez, ça c'est... Je vois si c'est à Palavas ou si c'est en Normandie. Alors, j'ai du pixel un peu dégoûtant. Et encore que là, c'est un peu meilleur. Ou c'est peut-être la toile, qui est, le crin de la toile. Hein. Alors là, vous voyez, il ne cherche pas le spectaculaire du tout. Comparé à tout ce que, toutes les scènes de mer, il n'y a pas la tempête, il n'y a pas de soleil couchant, il n'y a pas des bateaux au loin, il n'y a pas des paysages, il n'y a pas des pêcheurs, il n'y a pas des gens qui font, etc. C'est même un peu abandonné, une barque abandonnée sur la plage, la mer, une ligne, le sable, une ligne, la terre, voilà. Et le nuage, presque, qui meuble la surface, le ciel, presque dans une surface. Donc c'est plus de dépouillement, et audacieux, parce que ça ne séduit pas. Mais par contre, il y a quand même des critiques qui commencent à trouver qu'il y a une certaine force dans ces présences-là. Parce que justement, en Courbet, il laisse les gens aller vers lui. Presque tous les artistes veulent séduire de façon un petit peu spectaculaire. Courbet, c'est l'anti-spectacle. C'est en ce sens-là qu'il est très moderne. Quand il fait la vague aussi, c'est pas comme la vague de Victor Hugo. Ben, c'est une vague bête, on va dire, voilà, en gros. Il n'y a pas de rocher sur lequel elle fasse des éclaboussures extraordinaires. Hein. Elle est de taille modeste, ce n'est pas la grande vague, ce n'est pas le tsunami. Le ciel est un peu sombre aussi. Mais c'est cette espèce de force, comme ça. Là encore, il y a surtout une force cachée dans la mer que l'on voit ici. Alors, autre chose, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais peindre la mer, c'est une chose la pire qui soit, la plus difficile. Les transparents, les états, d'abord ça me fout tant de fil. En plus, il n'y a pas de photos. Enfin, par la suite, Courbet va utiliser des photos, mais des photos sont pas en couleur. Donc, une synthèse de la mer, c'est très, très difficile. Donc, c'est vraiment une réalité aussi qui est complexe. Surtout si on veut la voir, si on ne veut pas lui faire dire quelque chose d'autre, si on veut vraiment la présenter dans sa force, dans sa présence, ça défie. C'est comme la pluie. L'eau à peindre, il n'y a quasiment aucun peintre qui a peint la pluie. C'est beau fouiller, il y a Caillebotte qui a essayé avec les parapluies, etc. Revoir un petit peu pour les impressionnistes, mais sinon il y a les Japonais. Il n'y a pas la pluie, parce que justement ils s'écartent aussi de l'illusion. Mais vous avez ici, donc l'eau dans cet état-là, c'est assez complexe. Et donc Courbet va peindre plusieurs fois. Alors ça c'est à Étretat, mais Étretat c'est pas tellement la falaise qui l'intéresse, on voit les pieds de la falaise, c'est aussi les mares, la mer. Alors, là encore, une sorte de frontalité, une simplicité et un dépouillement. Il n'y a personne, il n'y a pas d'anecdote. Là encore, ça on l'a vu. C'est encore, donc là encore. Vous voyez, c'est aussi un artiste qui travaille des séries. En fait, c'est un des premiers à aussi, et plus tard, vous verrez, avec les impressionnistes, ça sera un principe. Quelqu'un comme Monet va le faire systématiquement. Hein, mais parce que la réalité aussi, il se rend compte que la réalité, elle est complexe. Parce que justement, la mer, ça change tout le temps, les choses de la vie aussi, le point de vue. Donc, on ne peut pas tout dire en une œuvre. Cette idée aussi modeste de faire des séries, ça veut dire qu'effectivement, une peinture, c'est un point de vue à un moment donné, depuis un point de vue, depuis un lieu, mais ce n'est pas tout. Là aussi, il y a le fait de travailler en série, c'est visiblement, très clairement, cela a une certaine aussi modestie. Et puis aussi, cette idée qu'il est devant un sujet inépuisable, parce que si vous voulez peindre la mer, il y a tous les jours. Ça change tout le temps plus. Donc là encore, mais regardez par exemple ce qui est très clair chez lui, c'est que vraiment, les vagues elles ne dépassent pas l'horizon. Vous voyez, donc il y a des petites voiles au loin, mais c'est tout. C'est quelque chose aussi, là, certaine austérité. C'est un tableau, c'est même une reproduction. On ne va pas le mettre dans son salon, enfin, c'est pas évident de mettre ça dans son salon, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu terne, hein, qui est un peu austère. Ce dépouillement total. Puis c'est une présence aussi qui est presque un peu angoissante, parce que la mer, il n'y a personne, à mi-saison, un après-midi nuageux, c'est extrêmement déprimant. Je sais que c'est beau, mais alors parfois c'est glauque, il y a un point terrible. La mer c'est beau, mais parfois c'est sinistre. Si vous voulez, ça c'est assez clair. Alors là, vous voyez, quand on parle de série, alors ça c'est très intéressant, cette notion de série, on le voit ici. Alors, une des œuvres, là on arrive sur ces scènes avec des personnages, celle-ci s'appelle Elle est au musée de Lille, elle est assez grande. Et c'est une de celles qui va quand même, malgré tout, le faire connaître un peu plus. Et elle dit aussi d'une austérité terrible. Ça s'appelle une après-dîner. Alors, dîner, D-I-C, accent circonflexe, N-E, accent aigu, E. Dîner, une après-dîner, c'est une expression, je pense, de l'époque. À Ornance, justement. Je sais pas si j'ai jamais su si on disait Ornans ou Ornance. Ornans. Et un S. Et là, vous avez effectivement un certain ennui. Ils ont mangé. Son grand-père était ici endormi, c'est sans doute lui qui était conventionnel, des amis, courbés sans doute au violon, un chien qui s'endort, c'est très sombre, très noir, pas de lumière, pas d'extérieur, pas de paysage, un entre-soi, une sorte de torpeur, vraiment quelque chose qui est tout, pas de scène de genre, pas de banquet, pas d'apparente nature morte extraordinaire. Apparemment pas de virtuosité. La musique, elle est un violon tout seul, au point, on imagine, peut-être une sorte de ritournelle un petit peu locale, un peu ennuyeuse. L'odeur de pipe, trop mangé, trop bu peut-être, et puis le chien qui ronfle, pas de femme, une sorte d'entre-soi d'homme, etc. Quelque chose qui est effectivement dans l'austérité. Et par contre, quand on rentre, finalement, il y a une certaine quiétude, il n'y a pas de drame. Il y a justement un autre soi qui n'est pas prétentieux, qui n'est pas trop exclusif. Hein. Personne non plus pour prendre le pouvoir, une sorte de bien-être, un calme, une simplicité totale. Et il ose faire une peinture, alors il faut dire que c'est le non-sujet absolu. Non seulement dans le paysage, il fait des non-sujets, mais même avec des gens, on va dire, il réussit à faire une scène où il se passe quasiment rien. Et en plus, qui est plutôt ennuyeuse. On n'a pas spécialement envie d'aller là. On n'a pas spécialement envie, on n'est pas. Il y a même, c'est à peine des portraits. Les personnages sont presque en profil plus ou moins perdu, comme le grand-père ici, comme ce personnage. Lui-même est presque dans l'ombre. Et puis, on peut dire le noir et blanc. Hein. Par contre, si on regarde, il y a une présence. C'est-à-dire tout est totalement présent. Présence de l'ennui, effectivement. Et moi, je l'ai regardé. Et oui, aussi la frontalité. On ne voit pas d'angle de la pièce. On ne voit pas de porte, on ne voit pas de mur, on voit que la cheminée. Hein, on voit ici de grandes cheminées, etc. On ne voit pas les côtés, on voit à peine le sol. Donc vous voyez là aussi, quand je dis la frontalité, c'est vraiment il affirme la surface aussi. Comme si les personnages étaient presque écrasés sur le premier plan. Alors malgré tout, il détonne justement Courbet. Et donc, si vous voulez, cette espèce de radicalité qu'il apporte dans le monde de la peinture au XIXe siècle, on est dans les années 40 à peu près, 40-45, etc. C'est moderne, parce qu'il est loin du lyrisme, il est loin de la virtuosité. C'est quelqu'un qui affirme totalement ça et qui séduit certains esprits assez ouverts, comme Baudelaire par exemple. Baudelaire va trouver dans Courbet cette espèce de franchise, quelque chose qui ne ment pas. Hein, une certaine de quelqu'un qui n'est pas dans l'affectation. Et donc cette espèce de rudesse de Courbet, qui en fait est assez délicate également. C'est quelque chose que Baudelaire, qui est pourtant un urbain, qui a un peu un tragique, etc., donc qui n'est pas du tout un plouc, entre guillemets, comme Courbet, c'est quelque chose qu'il va savoir apprécier et défendre. Donc il a des défenseurs qui aussi se contraignent bien à son art. Alors, il y a un côté aussi social chez Courbet. Ça, c'est une peinture qui a disparu, puisqu'elle était à Dresde, en Allemagne. Et lors du bombardement effroyable de Dresde, où il y a eu presque 800 000 morts, il y a eu aussi des dégâts collatéraux, c'est qu'il y avait des peintures comme celle-ci qui étaient au musée de Dresde. Alors, c'est une peinture, une reproduction en couleur d'avant la guerre, c'est-à-dire peut-être juste avant, sachant que c'était menacé, etc. Une photo en couleur, de très bonne qualité, une peinture qui a disparu. Alors là, ça s'appelle évidemment les casseurs de pierre, sans douter. Alors, c'est très précis, il y a même des contours. Alors là, vous avez effectivement le côté, tout d'un coup, le réalisme aussi avec sa dimension sociale. Vous voyez, le vocabulaire de Courbet s'affirme systématiquement. Frontalité, une frange très petite de ciel bleu, ici sur la droite, on n'est pas dans le ciel. Ici, un fond, une sorte de colline de talus. Les personnages sont presque mis de côté, comme s'ils avaient très peu de modelés. Le jeune garçon ici un peu plus, avec son genou en avant, mais vous avez très peu, d'ombre propre ou d'ombre portée ici. Et regardez, on devine un peu une ombre derrière, mais si vous voulez, donc il y a un certain éclairage sobre. Le personnage, on pourrait presque le découper et le coller là. Et puis vous avez aussi chromatisme délibérément choisi et limité. Tout à l'heure, on a vu un chromatisme dans le noir avec l'après-midi et en ordonnance. Là, on a un chromatisme ocre, terre, qui correspond aussi au sujet, casseur de pierre. On n'a pas part de ciel. Et puis, vous avez le sujet, des gens qui cassent des cailloux. Les gens qui cassent des cailloux, c'est vraiment là, la face cachée. Bon, quand je raconte ça aux élèves, ils ne connaissent pas, vous connaissez tous la chanson sur la route de Louvier. Mm-hmm. Il y avait un cantonnier qui cassait des tas de cailloux, il disait, ça vient à passer, fais ta fichu métier, et si tu fais un fichu métier, mais si je casse mon train de cailloux, il ne roulerait pas de carrosse pour vous. Donc, vous avez toujours cette idée aussi que s'il faut un carrosse, il faut quand même une route. S'il faut une route, il faut des gens qui cassent les cailloux. Donc le côté réaliste, c'est aussi montrer la face cachée d'un monde de spectaculaire, ben vous avez les ouvriers qui travaillent. Et qui sont ignorés, qui ne sont pas regardés. C'est les gilets jaunes d'ailleurs, de l'époque. Hein. Mais donc vous avez cette idée aussi, ben regardez ceux qui sont cachés, les invisibles. Donc vous avez avec Courbet une dimension politique qui va venir assez naturellement. Une dimension politique de quelqu'un, puisque la réalité c'est aussi montrer ce qui est caché, on va montrer aussi ben, ceux qui travaillent, ceux qui ne sont pas vus, ceux qui n'ont pas le droit de citer, ceux qui ne sont pas représentés. Et donc, regardez ceux qui ne sont pas représentés. Mettez le nez sur eux. Et il n'est pas du tout dans la pitié. Le travail est dur. Le travail, c'est lourd, hein, mais ils sont costauds. Il y a une certaine coquetterie, justement. Dans le vêtement usagé, eh bien, il y a une harmonie colorée. L'homme, il a le col relevé, il a le chapeau, etc. Vous avez un geste aussi. Pourquoi il intéresse aussi à ça? Parce que ça, c'est typique de Courbet. Ça, c'est aussi des gens qui travaillent. Quand quelqu'un travaille, il a une posture du corps qui n'est pas une pose. C'est une logique de la posture du corps, qui est donc forcément vraie, puisqu'on ne peut pas casser des cailloux en faisant semblant. Si vous cassez un caillou, vous avez un geste qui est vrai. Et donc cette espèce de vérité, là aussi, ça intéresse Courbet, puisque là, il n'y a pas de mensonge. Donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'idée préconçue. Et il va dire, ah non, le caillou, tu devais le casser comme ça. Non, désolé, moi je le mets comme ça. Et donc vous avez cette vérité, cette franchise qui... Comment ? Ah non, elle a dit, oui, en fait, je parle tout le temps, mais...
Non, mais je
vois
qu'il avait des sabots,
celui de droite. Oui, lui a des sabots, c'est des sabots, et lui a des souliers. Oui. Donc ce sont des sabots. Et vous avez ce côté, justement, bah, dépouillé, simple, populaire, qui est très rural, que Courbet affirme complètement avec grandeur. Parce que ça, c'est une grande peinture. Oui, une grande peinture, hein, tu vois, à l'échelle humaine. D'un coup, ce sont aussi là, quand on dit des souliers, ce pas des petites peintures, c'est un ailleurs. Donc Courbet aussi commence à faire des peintures qui sont grandes. À l'échelle humaine, comme là, on ne peut pas détourner le regard. On a le nez sur cette réalité. Et cette réalité n'empêche que derrière cette austérité, eh bien, elle est très élégante. Le chromatisme, la vérité, une lumière, la simplicité de ces personnages. On ne les plaint pas. Ils ne sont pas en train de souffrir apparemment. Il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas de souffrance. C'est dur, mais il faut un métier. Ce n'est pas un bullshit job, ce qu'on dit, c'est un métier.
Comment ?
Ils ne
sont pas victimes.
Ils ne sont pas victimes, non, c'est quelque chose. Donc il y a une sorte de... Là, on est dans une sorte de vérité aussi, quelque chose qui est nécessaire. Hein. Et vous avez aussi... ils sont dans la nature, quelque part, il y a une sorte d'harmonie. Si ça se trouve, ils sont dehors. Après tout, c'est peut-être mieux que d'être dans un bureau à traiter des agents, comme des agents de change parisiens, etc. Là, vous avez aussi une certaine vérité qu'il impose. Alors, qu'il impose, non, qu'il présente, hein, qu'il met en scène, qu'il propose plutôt qu'il impose. Il dit, ben, regardez. Et vous voyez très clairement ce qui était vrai dans les peintures précédentes, c'est la toute petite part de ciel, même dans le Mont-Blanc. Hein, ici, on ne l'a pas toujours. C'est vraiment une mise en scène chez Courbet qui fait du sens. Une petite sortie vers le bleu. Et puis, il l'air de rien, c'est une petite touche de bleu qui est la complémentaire du orange. Vous avez aussi des... T'as deux locs. Et... oui, dans la chaussette, ici. Il y a une petite part de bleu.
Cailloux,
et sur certains cailloux, des petites touches de bleu. D'ailleurs, c'est vrai que si...
Et les deux personnages sont dans l'ombre, quand même, leur visage.
Alors, leur visage aussi, oui, parce que c'est là où c'est intéressant. C'est Courbet, c'est presque... ça aussi, c'est... S'il y avait des visages, c'était des portraits, donc on aurait pu raconter une histoire. Là, il y a une sorte de fonction. C'est les casseurs de pierre. C'est les casseurs de pierre. Si on avait fait un portrait, ça aurait vu sa tête, son histoire, etc. Là, il y a une sorte de mise à distance, justement, de tout ce qui pourrait rentrer dans trop de narration. Et là, il est très fort pour ça. Alors, autre chose, hein, là, j'ai trouvé d'autres versions. C'est là où on voit, par exemple, ça, c'est une version précédente, par contre, je ne sais pas où elle est. Là, vous avez plus de lointain. Vous avez des champs de blé, on a l'impression que le talus est plus loin.
Ouais.
Et il y a moins d'harmonie colorée. On est moins dans la frontalité. Et vous avez ici... Hein, une étude pour le personnage central. Donc, cette réalité, il la met en scène. Il travaille. Hein. série, etc. Il cherche, et quand il aboutit à son tableau, on voit bien qu'il y a une volonté, un dispositif qui est vraiment clair aussi. Il dépouille, il sélectionne, il a... Donc en fait, c'est un réalisme pensé aussi. Parce que si vous voulez, il n'a pas fait poser des gens, il n'est pas allé dans des coquilles. Il a construit une présentation réaliste de Casseurs de pierre, mais on n'est pas dans une anecdote en fait. C'est en ce sens que Courbet en fait est très complexe. Parce qu'il n'a pas dit tiens des Casseurs de pierre, parce que ça aurait été trop beau de trouver juste des Casseurs de pierre qui étaient avec cette belle lumière, devant un talus, on ne voit pas de ciel, on ne voit pas leur tête. Donc on voit bien qu'en fait Courbet, c'est pas une photographie, c'est vraiment une construction réaliste. Mais le réalisme, ce n'est pas l'illusion, ce n'est pas non plus quelque chose de spontané, c'est une construction. Là, par exemple, dans la cribleuse de blé qui était au musée de Nantes,
la cribleuse,
oui. C'est le tamis de blé. Hein. Alors, on dit que ces sœurs qui ont posé pour lui. Et alors là, vous voyez les harmonies colorées aussi. C'est que le de rien, on met discrètement, il introduit tout à l'heure cette harmonie en ocre. Vous avez aussi quelqu'un qui est capable de travailler les verts et les bleus de manière plus subtile. Et là, vous avez aussi une franchise des couleurs. Presque, mais si vous clignez les yeux, c'est presque des aplats. Enfin, pas des aplats, mais vous avez très peu d'ombre sur la robe. Très peu d'ombre propre, c'est des ombres colorées. Vous avez là aussi presque la robe, elle est presque comme une surface. En même temps, on voit bien le corps en modelé, avec les plis. Et vous avez les grains qui sont aussi dans une sorte d'harmonie colorée, rouge, alors, qui évoque la chaleur, l'été, on est en train dans un grenier, dans une grange, il n'y a aucune ouverture. On devine l'extérieur par les ombres portées peut-être d'une fenêtre, d'une claie. Ici, vous avez des sacs de grains, vous avez une femme endormie qui trie les grains un par un, et vous avez un gamin ici qui est en train d'ouvrir une drôle de machine, alors, j'en parlais tout à l'heure. Là encore, il y a aussi l'idée de la toile et de la surface. Ça aussi, c'est intéressant. Chez Courbet, vous avez des sortes d'obsessions qui sont assez claires. Des gestes aussi qui ne manquent pas. Parce que là, c'est un truc sur lequel on ne pose pas. La posture d'un corps qui est naturelle.
Oui. Les bras sont surdimensionnés.
Oui. Alors, les bras sont costauds aussi. Les bras sont très costauds. Semblent
plus longs,
un peu plus longs, mais si on regarde bien les coudes au niveau du nombril, les mains, les cuisses. Mais alors, vous avez aussi l'idée d'une esthétique et d'une beauté qui soit naturelle. Il ne cherche pas des beautés artificielles. Il cherche, et on va le voir, ça ira très très loin avec Courbet sur le corps, sur la présentation des corps. Il veut des corps qui aient une réalité physique, justement. Il ne veut pas des corps. Ça, on en parlera plus tard. C'est que, justement, Baudelaire parlait en avait ras-le-bol des corps, des nus qui étaient comme des nus de beurre blanc. Des corps qui n'avaient pas de chair, qui n'avaient pas de vérité, qui étaient fades comme un beurre blanc. Sans présence. Courbet, au contraire, va trouver que dans ce geste, dans ses postures, dans ce corps, il y a beaucoup plus de force. Et en même temps, une certaine élégance. C'est quelqu'un qui a un foulard, qui a une jolie coiffure, qui a une robe de travail qui est cintrée, avec un petit volant, etc. Donc, qui, dans ce geste de travail, a quand même de la grâce. Alors, ça aussi, chez lui, c'est en ce sens-là qu'il y aurait une dimension aussi politique. C'est-à-dire que la grâce, la beauté, la légitimité, l'utilité, sont peut-être à chercher aussi du côté d'un certain peuple. Lui, venant aussi de milieux plus populaires, étant été éduqué par un grand-père qui était révolutionnaire, c'est aussi quelqu'un qui va se trouver aussi en France, traversée par des révolutions politiques, va avoir des sympathies, évidemment, républicaines et plutôt sociales dans les années 1848. Alors, il va peu participer à la révolution de 48, bizarrement. Alors que, oui.
C'est sur la première fois qu'on voit des femmes.
Alors, j'ai pas forcément mis de manière chronologique. Là, c'est plus thématique. Hein, parce que il aura fait des femmes plus nombreuses, puis il va en faire souvent. Donc,
il va en faire une avec
le voilà. Monde. Et puis, c'est un sujet, je vais voir, qui sera très important pour lui, un sujet, une réalité, qu'il va aborder de manière spécifique. Et là, comme je suis parti de. Là, c'est plus thématique que chronologique, il y a une légère chronologie, mais. Alors, ce que l'on pense aussi, c'est que le Courbet, ça, j'ai su ça très récemment, c'est qu'il y a aussi peut-être une allégorie aussi du travail et de la modernité. Ce qui se dit, c'est que Courbet aussi était assez réticent pour les questions sociales, c'est que. Ah, mais il est l'heure. D'accord, je finis, bien sûr. C'est qu'il fut un temps, les grains, on les triait à la main. Puis on est passé au tamis. Et ce que l'on a à droite, c'est une machine. c'est aussi la modernité. Les machines à crémer.
Oui, je suis un peu interrogatif au niveau du grain. Le blé, enfin, moi j'étais dans la campagne, le blé, il n'est pas de la même couleur.
Ah oui, alors là, c'est un peu plus rouge. Là, il est un peu plus brun et ocre que ici. Dans la vérité. Là, le tableau est. Là, les couleurs sont un peu saturées.
Ils sont pas rouges.
Là, c'est.
Les blés sont jaunes.
Là, c'est beaucoup plus jaune.
C'est
la reproduction. Donc, j'étais parti là pour continuer, donc je marche là et on continuera la prochaine fois. Alors, celui-ci, par contre, je suis un.
Ah non, c'est
celui-ci. C'est celui-ci. Si je fonctionne en automatique.
Je dis Nantes.
C'est Nantes. Vous avez des 1 grossi à Nantes. Donc les blés, ils sont moins rouges que ça. La prochaine fois, j'essaierai de paramétrer un peu le vidéoprojecteur que j'ai changé d'ordinateur.
Oui, mais pas non plus ce choc de lumière. Il y a un gros choc de lumière là, sur la reproduction.
Oui, il n'est pas dans la réalité. J'ai triché, parce que ça ne voit pas. Vous l'avez
vu récemment? Il y a eu une grande exposition au Grand Palais. Tout ce que vous avez montré ce matin a été exposé au Grand Palais dans ces dernières années. Et puis
au Petit Palais, parce qu'au Petit Palais, il y a des
bons. Non, je sais que Courbet, c'était au Grand Palais. Par contre, Friedrich, c'était au Louvre.
Ah oui.
Et puis Turner, c'était au Grand Palais aussi.
Ah
oui, il y a déjà plusieurs années. Dans les abonnements. Mais c'est pour ça que les histoires de couleurs et de catalogues, j'ai ça en tête. Et je n'ai pas ces lumières-là.
C'est très difficile à reproduire. Il y a des verts qui deviennent des violets.
Ah oui, c'est dur.
Là.
Ouais, mais c'est super. Je retrouve plein de choses.
Ah, d'accord.